Victor Toutougoro était ce midi l'invité du magazine Transparence. Avec l'accord de Bougival, il n'y a plus de clivage pour ou contre l'indépendance, affirme le président de l'UPM, extrait dans ce journal. Malgré sa condamnation à une peine d'inéligibilité, Jacques Lallier pourrait retrouver son siège au Congrès, son fauteuil de président de la province des Îles. Vous en entendrez dans un instant. Le phare du lycée d'Okamo détruit par un incendie, c'était hier soir. La piste criminelle est privilégiée, elle devrait être confirmée par l'enquête qui a été ouverte. Deux propositions de loi du pays sur un même sujet. Les élus du Congrès ont parlé économie sociale et solidaire ce matin, boulevard Vauban. Et puis la maison de Wallis et Futuna a été inaugurée ce matin. Sa construction avait débuté en août 2022 à Magenta. Un projet à hauteur de 200 millions de francs entièrement financé par la province sud. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Avec l'accord de Bougival, il n'y a plus de clivage pour ou contre l'indépendance. C'est ce qu'affirme Victor Toutougoro. Et les gens vont pouvoir se parler sereinement et développer l'économie. Le président de l'UPM était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Jean-François Bodin.
Victor Toutougoro a négocié et signé l'accord de Bougival au sein de la délégation unie. Il est aussi par ailleurs signataire de l'accord de Nouméa. Et face à la cacophonie du camp indépendantiste, il lui a été demandé quelle est la nature du document qui a été signé. Pour lui, il s'agit d'un compromis politique.
Moi, j'utilise le terme de compromis politique parce que c'est le résultat in fine au bout de plusieurs jours de discussion, plusieurs heures de tractation qui ont abouti à ce compromis politique. Comme tout compromis, on n'est jamais donc satisfait à 100% puisque les uns et les autres ont fait des concessions. Et donc, à un moment donné, on pense que les concessions faites de part et d'autre aboutissent à un résultat équilibré. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a signé, en fin de compte, cet accord, ce compromis politique.
La délégation unie défend le projet d'accord, mais l'UC et le BP du FLNKS critiquent vivement le texte. Et Victor Toutougoro regrette cette attitude.
Ça reste dans la logique du 13 mai. La logique qui les avait amenés à quitter la table de négociation de Darmanin à l'époque. On est toujours dans cette logique. Et donc, moi, je déplore l'attitude des copains du lycée du FLNKS parce que ce n'est pas bon pour le pays que l'ensemble des signataires, que l'ensemble des personnalités qui ont négocié ne puissent pas aller jusqu'au bout de leur signature. Au mois de février, lorsqu'on va ratifier cet accord, la population calédienne, si d'aventure cet accord n'était pas avalisé, qu'est-ce qui arriverait? C'est un peu le néant. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. Non. Qui sommes les gestionnaires des collectivités et des provinces, par exemple, on n'a pas de visibilité au-delà de 2025.
Ça nous fait de la peine, dit-il, que l'UC ne supporte pas l'accord, mais qu'il pense que certains responsables de l'Union calédonienne, comme son président Emmanuel Tchibaou, vont continuer à porter l'accord de Bougival. Et il se dit convaincu que désormais, les différents signataires doivent défendre ensemble le texte qu'ils ont signé.
Aujourd'hui, l'accord lui-même n'entretient plus ce clivage, puisque les choses sont dorénavant ouvertes. Et donc, il faut que les uns et les autres soient en capacité d'aller au-devant des populations pour expliquer ensemble pourquoi on a signé cet accord et quelles sont les orientations que tout le monde leur donne. Pas chacun, le camp indépendantiste, le camp non-indépendantiste, non. Les principaux responsables, comment on entend construire le pays et comment on entend le développer, lui donner toute son autonomie dans les années à venir.
Concernant le fond de l'accord, le président de l'UPM se félicite de la création d'un État de la Nouvelle-Calédonie. Mais pour lui, c'est l'expression « sui generis » qui est importante parce que cela prouve que la Nouvelle-Calédonie est particulière et qu'elle évoluera selon ce que les Calédoniens auront défini.
Le résultat des référendums ont indiqué que la majorité de la population était contre l'accès à la pleine souveraineté. Mais une grosse minorité, presque équivalente, 47%, veulent y accéder. Et donc, il fallait essayer de trouver ce qu'on a appelé à un moment l'inconciliable. La solution a été de dire, on va dans la Constitution française, pour la première fois, dans l'histoire de la décolonisation, instituer un État. Un État qui, pour le moment, reste au sein de la République. C'est parce que c'est un État avec une population, avec un territoire, avec des compétences propres. Je rappelle que s'il y a 4 compétences régaliennes aujourd'hui, n'ont toujours pas été rétrocédées à la Nouvelle-Calédonie, mais l'immense majorité des autres compétences ont été rétrocédées déjà à la Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, ce ne sont pas des régaliennes, mais c'est ceux qui font vivre les Calédoniens au jour le jour. Et donc, avec ça, avec une nationalité propre, une reconnaissance à l'international, ça, ce sont les caractéristiques d'un État qui sont dans la Constitution française.
Et dans ce contexte, Victor Toutougoro affirme que la pleine souveraineté est possible au bout du chemin.
On va naviguer avec ça, avec un État, dans la Constitution française, à l'intérieur de la France, pour respecter les référendums. Mais petit à petit, les Calédoniens, suivant l'évolution de leur mentalité, suivant la confiance qui se sera manifestée les uns aux autres, parce qu'il faudra rapidement apaiser les choses, il faut apaiser pour qu'on puisse se reconstruire derrière. Petit à petit, les Calédoniens pourront demander à ce que soient attribuées les dernières compétences régaliennes. Et petit à petit, donc, on va emmagasiner les choses comme ça. Et au bout, là-bas, ça prendra le temps que ça prendra 10 ans, ça prendra 15 ans, ça prendra 20 ans. Mais là-bas, c'est la sortie, c'est l'accession à la pleine souveraineté. Mais on aura décidé ensemble.
Les mécanismes de transfert des compétences régaliennes ont été imaginés pour que les Calédoniens fassent les choses ensemble, affirme le président de l'UPM, parce que pour lui, l'essentiel dans cet accord, c'est qu'il n'y a plus de clivage.
N'ayant plus ce clivage pour ou contre l'indépendance, pour ou contre l'accession à la pleine souveraineté, le temps sera celui de la construction du pays. Chose qu'on n'a jamais pu faire jusque-là. Et enfin, on va pouvoir mettre tous les sujets de société sur la table et essayer de trouver solution. Chose qu'on n'a jamais fait jusque-là. C'est le cas de l'énergie. C'est le cas du nickel aujourd'hui. C'est le cas de la souveraineté ou de l'autonomie alimentaire, etc., etc. C'est tous les sujets de société qu'on va pouvoir parler de l'économie du pays. Et donc, le développement économique de notre pays. Et je pense que la Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens, une fois se mobilisés sur ces sujets de société, petit à petit, ça va redonner de la confiance.
Et pour Victor Tutugoro, c'est dans le même état d'esprit qu'il a été décidé d'ouvrir le corps électoral. Il explique par ailleurs que le rééquilibrage du Congrès et l'augmentation des compétences des provinces ont fait partie de la négociation. Il espère enfin que maintenant qu'il y a un accord, l'État va apporter son aide à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie et notamment à la reprise de la filière nickel.
Une interview de Victor Tutugoro qui sera rediffusée dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Au chapitre politique en Corse, c'est l'effervescence dans le camp indépendantiste où l'accord signé à Bougival est au cœur de toutes les réflexions. Après la réunion de la commission exécutive de l'Union calédonienne lundi et la réunion mardi du bureau politique du FLNKS, plusieurs instances sont convoquées ce week-end. Le comité directeur de l'UC se réunira demain à la tribu de Gatop à Vaud. Le même jour, le RDO tiendra son comité directeur à Dimbéa et l'UPM réunira un comité central extraordinaire à la tribu de Nédivin à Wailou. De son côté, la CCAT doit tenir une assemblée générale dimanche au Mont d'Or. Le FLNKS enfin se réunira en congrès ou en convention le 2 août à Bouraille. Toutes ces instances devront se prononcer sur la suite à donner à l'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie qui a été signé le 12 juillet à Bougival par l'ensemble des groupes politiques calédoniens et par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Philippe Gomès et Philippe Michel demeurent membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie dans l'attente de la décision du Conseil d'État au fond. Et Jacques Lallier devra être réintégré prochainement dans les effectifs de l'Assemblée. C'est ce que précise dans un communiqué le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Jean-François.
Nous vous annoncions ce midi que Jacques Lallier allait retrouver son siège au Congrès et à l'Assemblée de la province des îles. Et nous avons déjà évoqué la situation des deux élus de Calédonie ensemble. Mais le Congrès tient à apporter des précisions sur le cas de ces élus condamnés à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. Concernant la situation de Philippe Gomès et de Philippe Michel, le Congrès rappelle que le haut-commissaire a pris le 7 juillet un arrêté qui les déclarait démissionnaires d'office de leur mandat, notamment de membres du Congrès et de la Nouvelle-Calédonie. Le Congrès rappelle aussi que les deux élus ont contesté cet arrêté en référé et en annulation devant le Conseil d'État et que tant que la juridiction administrative n'a pas statué définitivement sur le recours au fond, l'arrêté de démission d'office ne peut produire aucun effet juridique. Dans ces conditions, indique le Congrès, Philippe Gomès et Philippe Michel conservent leur mandat dans l'attente de la décision du Conseil d'État au fond. La situation de Jacques Lallier relève du même cadre juridique, précise le communiqué du Congrès, qui rappelle que l'élu des îles a également introduit un recours en annulation devant le Conseil d'État contre l'arrêté du haut-commissaire le déclarant démissionnaire d'office. Ce recours entraîne par conséquent les mêmes effets suspensifs dans l'attente de la décision définitive du Conseil d'État, ce que Jacques Lallier nous a confirmé.
Le Conseil d'État a pris une décision globale puisque au mois de juin dernier, j'avais entre-temps avec l'avocat que j'ai à Paris proposé un QPC, une question prioritaire constitutionnelle, et donc le Conseil d'État a accepté, a proposé d'aller en Conseil constitutionnel. Donc, par effet induit, il suspend les applications des problèmes qu'on nous a inculqués à travers l'article 115 que le haut-commissaire a appliqué par erreur sur ma situation, pas sur les autres, mais sur ma situation personnelle concernant la mandature de 2019 à aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel a 3 mois pour délibérer, donc au plus tard en septembre, pour décider si cette situation sera définitive jusqu'aux prochaines élections.
Jacques Lallier doit ainsi également être considéré comme membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il sera donc réintégré prochainement dans les effectifs de l'Assemblée. Le Congrès tient à préciser que cette situation ne procède en aucun cas de sa décision ou de son choix, mais qu'elle s'inscrit strictement dans le cadre fixé par la loi organique statutaire, telle qu'il vient d'être interprétée et révélée par le juge administratif dans son ordonnance du 22 juillet 2025.
Et la réintégration de Jacques Lallier va avoir, Jean-François, des conséquences au Congrès et à l'Assemblée de la province des Îles.
Oui, l'ancien président de la province des Îles va en effet réintégrer 2 assemblées où il avait été remplacé après l'arrêté du haut-commissaire qui actait sa démission d'office le 29 novembre dernier, après sa condamnation à 2 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire dans l'affaire du marché du parc informatique de la province des Îles. Au Congrès, c'est Reine Hué qui était devenue conseillère en remplacement de Jacques Lallier. Le maire de Lifou, Nekone Peoun, avait quant à lui fait son retour à la province des Îles en tant que suivant de liste et le bureau de la province avait été renouvelé le 27 décembre 2024. C'est Mathias Oineux qui avait été élu à la présidence. La réintégration de Jacques Lallier devrait donc être suivie d'un nouveau jeu de chaises musicales et elle pourrait aussi invalider l'élection du nouvel exécutif de la province des Îles. On retrouve Jacques Lallier.
Concernant la province des Îles, ça veut dire aussi que je suis toujours l'élu qui a été désigné par la population. Et démocratiquement, je dois retrouver mon siège, même si c'est temporaire, est confirmé en septembre. Mais en tout cas, si l'arrêté n'est plus, l'application de cette décision fait que je dois revenir à l'exécutif. Et quand on m'a sanctionné, ce n'était pas en tant que conseiller de la province, c'était en tant que président. Et normalement, je dois retourner comme président et les vice-présidents de mon bureau devaient reprendre leur place. Et tout ce qui a été fait, notamment au niveau de l'Assemblée, peut-être remise en cause facilement.
Et notez que Jacques Lallier va également demander le paiement des indemnités qu'il n'a pas perçues pendant la période au cours de laquelle il a indûment été démis d'office.
Au chapitre des faits divers, le phare du lycée d'Ocamo entièrement détruit, un incendie a ravagé la paille hier soir. Les pompiers ont dû intervenir pour circonscrire les flammes. Ce matin, c'est une entreprise de démolition qui a permis de terminer l'intervention et les cours ont été suspendus tout au long de cette journée. Le feu serait d'origine criminelle, mais l'enquête devra encore le confirmer. Une plainte devait être déposée dans la journée par la direction de l'établissement. Et puis, autre incendie d'origine inconnue à Dimbéa. Il a eu lieu au squat du péage, route du Médipôle. Un abri de fortune avec un toit en paille a été entièrement détruit. L'incendie a été repéré vers 1h50 par une patrouille de gendarmes. Personne ne se trouvait sur place.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à notre question d'hier, 25% des auditeurs de Radio Rythme Bleu estiment que l'adoption d'une charte de la vue nocturne contribuera efficacement à la lutte contre l'alcoolisme. Ils sont 75% à penser que ce ne sera pas le cas. Voici notre question du jour. Une synergie des 3 opérateurs métallurgistes vous semble-t-elle nécessaire pour sauver la filière? Si elle vous semble nécessaire, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 3146. Il est pratiquement à 18h sur Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous. Dans un instant, nous irons au congrès de la Nouvelle-Calédonie où on a parlé économie sociale et solidaire ce matin.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Cafard, termites, rats, pensez Formula 4D. Vos problèmes seront maîtrisés par une équipe appliquée. Formula 4D, un service de qualité avec réactivité. Info sur formula4d.com.
Info soir, Lionel Sabot.
Les élus du Congrès réunis ce matin en séance publique, c'était boulevard Vauban, où ils ont examiné 2 propositions de loi du pays relatives au développement de l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Calédonie. Les 2 propositions différentes sur un même sujet ont été co-signées par Naya Wateu et Omera Neslin. Les 2 textes définissent la notion d'économie sociale et solidaire, mais aussi, bien évidemment, encadrent ce type d'économie qui, selon les chiffres, regrouperait 14 000 structures en Nouvelle-Calédonie. Naya Wateu, rapporteur spécial essentielle de la première proposition de loi du pays.
Les associations et les structures qui œuvrent dans le cadre de l'intérêt général en Nouvelle-Calédonie, ce qu'on appelle ces structures de l'économie sociale et solidaire, nous ne les oublions pas. C'était tout l'enjeu de ce texte que je porte maintenant depuis 2 ans pour reconnaître et définir ce qu'est l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Calédonie, permettre cette reconnaissance de ces hommes et ces femmes de l'ombre, mais qui travaillent chaque jour pour passer de l'informel vers le formel et accompagner cette notion d'utilité sociale qui, plus que jamais aujourd'hui, est primordiale dans le cadre d'une reconstruction. Cette définition et cette reconnaissance de l'ESS ouvrent aujourd'hui des possibilités d'accompagnement et de soutien financier à l'Hexagone, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, mais au-delà de ça, au niveau de l'Union européenne et même aussi au niveau des Nations unies.
Ces deux propositions de loi ont été très largement inspirées de la loi Hamon adoptée en 2014 par le Parlement. Les élus du Congrès ont adopté à l'unanimité ces deux propositions de loi qui définissent un cadre et des mesures concrètes avec par exemple la création des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Omer Anesline, rapporteur spécial de la seconde proposition de loi du pays.
Ces nouvelles formes de sociétés coopératives, donc on vient modifier le code de commerce, de pouvoir permettre à des associations ou même des sociétés déjà en activité de pouvoir se transformer en sociétés coopératives d'intérêt collectif, avec bien sûr un cadre. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif vont aussi être labellisées. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif qui seraient agréées ESUS-NC auront encore des avantages pour pouvoir fiscaux, mais aussi des incitations et soutiens financiers de pouvoir aussi organiser et structurer et promouvoir l'économie sociale et solidaire.
Oui, j'ajoute que selon les chiffres communiqués ce matin lors de l'examen des deux textes, l'économie sociale et solidaire représente aujourd'hui 1,7% du PIB de la Nouvelle-Calédonie. C'est l'aboutissement aujourd'hui d'un projet qui vise à renforcer les liens entre Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. La maison de Wallis et Futuna a été inaugurée ce matin à Magenta, Charlotte Coulson.
La première pierre posée en août 2022. 3 ans plus tard, le projet est enfin abouti. C'est une maison aux allures à la fois traditionnelles et contemporaines. Les architectes se sont inspirés des tapas, des motifs triangulaires qui rappellent les paniers tressés des mamans pour décorer le bâtiment. Les représentants d'institutions calédoniennes et de Wallis et Futuna ont découvert les lieux ce matin lors de l'inauguration. Le projet a été entièrement financé par la province sud, 200 millions de francs, auxquels s'ajoutent 70 millions pour la rénovation du foyer situé à proximité et 30 millions pour les aménagements extérieurs. Le loyer sera quant à lui pris en charge par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Un investissement qui a du sens, selon la présidente de la province sud, Sonia Baquès, pour construire une identité calédonienne fondée sur le partage.
C'était important de le faire. La province avait derrière le foyer wallisien ce terrain qui permettait de le faire, et je pense que ça a du sens qu'on puisse avoir pour la communauté cet espace dédié avec le foyer pour les sujets culturels et puis cette maison pour tout l'accompagnement des Wallisiens et des Futuniens. Je pense que l'une des choses importantes de l'accord qu'on a signé à Bougival, auquel j'espère que les Calédoniens adhéreront, c'est de dire que finalement on construit une identité calédonienne où tous les Calédoniens ont la même place, et je pense que c'est important qu'on puisse avoir un partage de culture. Donc aussi bien le foyer en bas que cette maison de Wallis et Futuna, c'est une case qui est ouverte à tous, dans laquelle finalement tous ceux qui s'intéressent à la communauté wallisienne et futunienne seront les bienvenus.
La maison accueillera donc la délégation de Wallis et Futuna en Nouvelle-Calédonie, composée de 9 agents. Leur mission sera d'accompagner les résidents wallisiens et futuniens, mais aussi de faire rayonner la culture du fenoua en Calédonie. Un projet salué par le président de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna, Munipoese Muliakaaka.
Cette maison permet en fait de continuer à travailler dans l'accueil, bien sûr, de nos étudiants, de nos malades évacués, surtout pour leur démarche administrative. Il y a également l'accompagnement de la délégation de Wallis et Futuna pour les personnes en situation difficile qui arrivent depuis Wallis et Futuna ou bien la communauté qui vit ici en Nouvelle-Calédonie. Ça représente aussi une maison traditionnelle comme une case qui va rassembler un peu tout le monde. Et étant donné que la Nouvelle-Calédonie, c'est une terre d'accueil, et donc avec cette maison de Wallis et Futuna, c'est une porte qui s'ouvre pour partager avec tout le monde.
Ont également assisté à la cérémonie d'inauguration le préfet de Wallis et Futuna, Blaise Gourté, le député Nicolas Metzdorf, le président du gouvernement, Alcide Ponga, ainsi que Muriel Malfar-Paouga, qui représentait la présidente du Congrès.
Venons-en à l'actualité culturelle. Elle est chargée ce week-end avec notamment, Charlotte, le salon Saveurs et Traditions à la Maison des Artisans à Nouville.
Oui, un voyage gustatif au cœur des traditions locales. C'est ce que propose le salon Saveurs et Traditions depuis hier déjà. Les visiteurs peuvent découvrir une cinquantaine d'exposants spécialisés dans la gastronomie locale ou d'ailleurs. Le salon rouvrira demain de 9h à 16h et dimanche de 9h à 14h30 à la Maison des Artisans. Non loin de là, un salon du mariage ouvrira ses portes ce week-end à l'Art Factory, l'occasion d'aller à la découverte des robes, des photographes, des traiteurs pour organiser un mariage. Le rendez-vous est donné demain de 9h à 18h et dimanche de 9h à 17h à l'Art Factory.
Les passionnés d'aviation, rendez-vous ce week-end. L'aéroclub calédonien Henri Martinet organisera à l'occasion de son 90e anniversaire la fête de l'aéronautique.
Et oui, le club ouvre ses portes aux Calédoniens à l'aérodrome de Magenta. Les curieux pourront découvrir sur place une exposition qui retrace l'histoire de l'aviation en Calédonie. Il y aura aussi un village avec tous les professionnels de l'aéronautique, la compagnie Air Calin, Air Oceania, l'armée de l'air, la gendarmerie, la police, les pompiers, l'école de pilotage, l'école de drone, sans oublier un pôle loisirs dédié à l'aéromodélisme ou au parachutisme. Et les visiteurs pourront surtout effectuer des vols d'ouverture, de découverte en avion ou en ULM. L'événement se déroule samedi de 8h à 17h à l'aérodrome de Magenta.
Et une journée d'animation demain sur la place des Cocotiers avec la 5e édition de Nouméa Fête ses quartiers.
Un événement qui met à l'honneur les habitants et les associations de tous les quartiers. Un moment convivial pour se rencontrer, partager et valoriser les savoir-faire de chacun dans une ambiance chaleureuse et festive. Les précisions de Antoine Barguin, adjoint au chef du service Vie de la Cité.
Il y a 37 quartiers au niveau de la ville de Nouméa et aujourd'hui la ville de Nouméa est prédécoupée en 5 secteurs. En fait, l'idée c'est de rassembler et de créer du lien entre les différents acteurs qui sont positionnés dans les différents secteurs de la ville de Nouméa. Dans un premier temps, il y aura bien sûr tout ce qui est proposé au niveau des services opérationnels, que ce soit les services municipaux des sports, la direction de la culture. Il y aura toutes les sensibilisations qu'on peut trouver au sein des quartiers, les animations socio-éducatives bien sûr qui sont représentées à travers le dispositif Proxicité. Et puis dans un second temps, on va mettre en valeur aussi toutes les associations. En quoi sont acteurs dans la vie de la cité, dans leurs différents quartiers. Dans un premier temps, qu'elles se rencontrent entre elles aussi, dans un même lieu, pour qu'elles puissent interagir. Comment on les a, nous, soit accompagnés, soit ce qu'elles ont mis en place au sein de leur secteur. Et puis, faire part de qu'est-ce qu'on peut trouver avec elles, notamment, en quoi elles peuvent aider, en fait, pour les habitants de la ville de Nouméa.
Nouméa Fête ses quartiers, c'est de 9h à 16h ce samedi 26 juillet sur la place des Cocotiers. Des navettes sont prévues au départ des espaces municipaux sur inscription.
La plus belle des destinations, c'est la nôtre. C'est l'un des slogans du salon du tourisme qui aura lieu demain au parc Brunelet.
80 prestataires seront réunis lors de cet événement organisé par Sud Tourisme. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir les activités et les escapades en province sud, mais aussi de profiter de bons plans, de quoi trouver des sorties ou même d'échanger en direct avec l'équipe de Sud Tourisme dans un cadre convivial. Eugénie Kerlo, responsable attractivité, communication et marketing à Sud Tourisme.
C'est un événement qui est attendu beaucoup par le secteur touristique. On a déployé à cette occasion, enfin en tout cas on a décliné une campagne qu'on a lancée il y a quelques temps autour du thème « Pas besoin d'aller loin pour ». Là c'est pour se retrouver, c'est un peu une invitation finalement aux Calédoniens à redécouvrir l'offre touristique en province sud. Le tourisme est un trait d'union, c'est un lien entre les habitants et leur territoire. Et là, pour accompagner cette relance, plus que jamais, on a besoin d'un rendez-vous qui va permettre à tout le monde de se réunir, de se retrouver dans une belle ambiance. Je crois que même si le tourisme international reprend petit à petit, l'habitant est plus que jamais un maillon indispensable du tourisme. On le voit, pas qu'en Calédonie, on le voit partout ailleurs, au niveau des différentes destinations internationales. L'habitant est vraiment devenu un pilier majeur. C'est un habitant qui est aussi ambassadeur de son territoire, qui est aussi visiteurs, donc qui consomment de l'activité et du coup qui est extrêmement important encore plus dans cette relance.
Le salon du tourisme, c'est donc demain de 9h à 19h au parc Brunelet-Durée-Civigne.
Deux jours de fête à Thiou, les habitants de la commune vivront au rythme de la 36e édition de la foire agricole et artisanale ce week-end.
Et oui, le site du champ de foire de Thiou-Mission accueillera de nouveau cette manifestation qui n'a pas pu se tenir depuis 2 ans. C'est un événement culturel destiné à promouvoir les produits vivriers, l'artisanat, les richesses culinaires, les fruits de mer, les plantes, les savoir-faire des habitants de sociaux ainsi que les sites naturels et historiques de la région. La foire agricole et artisanale, c'est de 8h à 21h demain et puis de 8h à 17h le dimanche sur le champ de foire de Thiomission. L'entrée est gratuite. Et puis retour à Nouméa où les fêtes de Bayonne sont aussi célébrées. Il y aura de l'ambiance demain au Fronton Basque à partir de 13h avec des jeux puis une soirée animée entre autres par Funk You, la fanfare Malawi, DJ Janice. Attention au dress code, une tenue en rouge et blanc est exigée.
Évidemment, observation du ciel, c'est demain soir à la fois et c'est avec l'association calédonienne d'astronomie.
Et les bénévoles de l'association seront de 18h à 22h à l'aérodrome de Watom pour une soirée d'animation et d'observation astronomique. L'occasion d'observer les objets du ciel profond, notamment des amas d'étoiles, nébuleuses ou encore des galaxies. Des lunettes et télescopes seront mis à disposition du public et chacun peut aussi venir avec son propre matériel. L'entrée sera libre et gratuite.
Merci Charlotte pour ce pari. Si les sorties, Patrick Bruel sera en concert en Nouvelle-Calédonie. Ce sera le 25 octobre prochain à l'Arène du Sud. L'annonce a été faite cet après-midi par Sonia Aline Productions. Patrick Bruel, accompagné par ses musiciens, fera étape pour un concert de la tournée On en parle, dans lequel il reprend ses plus grands succès. La billetterie est ouverte dès aujourd'hui sur ticketpacifique.nc. Et puis sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. C'était cet après-midi le tirage au sort de notre grand jeu Chance. Le gagnant va pouvoir profiter d'un séjour à l'hôtel Le Stanley. Et Kélinda Boicot a pu le joindre. Il s'agit de Jean-Pierre.
Bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Jean-Pierre Taxier ?
Oui.
C'est Radio Rythme Bleu, Kélinda.
Kélinda, yes.
Vous savez pourquoi je vous appelle ?
Je sais pas, non.
Vous avez joué à un jeu sur RRB, par hasard ?
Oui. Ah, j'ai gagné quoi ?
Un séjour à l'hôtel Le Stanley.
Ah bon ?
Vous allez loger une semaine ensuite, Ilang Ilang. Petit déjeuner inclus pour deux personnes, offert par l'hôtel Le Stanley. Tout ça, c'est un cadeau d'une valeur de 242 200 francs.
Non, c'est formidable ça.
Content d'avoir gagné ?
Ben, je veux, oui.
Vous participez tout le temps au jeu ou...
Ben, je fais que ça, ça me coûte une fortune. Ben, je sais plus, c'est un mot que je joue. Enfin, je suis très content. Merci à RRB.
Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. Demain, le jeu Sens reprendra avec un autre cadeau à gagner en jouant par SMS. Il est 18h13. On va marquer une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous. Il y a encore un peu de boulot avec du sport et la météo.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie ? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Ah, ces assurances ! J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA Agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS 170 059. RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La fin de votre journal Le Sport avec Lionel Sabot. Oui, Le Sport avec l'agenda du week-end et forcément, on va commencer avec le Tour de France.
Air Canin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
Et Jean-François Bedin, on approche de la fin de cette 112e édition de la Grande Boucle. Il ne reste plus que 3 étapes.
Oui, et ce soir, c'est encore une étape de montagne après celle d'hier, avec une arrivée à la Plagne classée hors catégorie. Et les coureurs auparavant auront attaqué les pentes, notamment du col de Pré, lui aussi classé hors catégorie. Demain soir, une étape accidentée attend le peloton entre Nantua et Pontarlier. Avant l'étape finale dimanche soir et l'arrivée qui retrouvera les Champs-Élysées, Tadej Pogacar est toujours en jaune. Il possède plus de 4 minutes d'avance sur Jonas Vingegaard. Notez que le Tour de France féminin se lancera demain soir de Vannes. 9 étapes sont au programme.
Un mot de tennis pour signaler qu'il y aura un Français en finale de l'ATP 250 de Kitzbühel. C'est en Autriche ce soir en demi-finale. Duel Arthur entre Cazaux et Reinendek. On va passer au sport mécanique.
On verra.
La petite virgule des sports mécaniques, elle va arriver, elle arrive, elle est là, elle est là.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et après la traditionnelle pause estivale de 2 semaines, c'est le retour de la Formule 1. Rendez-vous ce week-end en Belgique.
Sur le circuit de Spa-Francorchamps, évidemment, avec des conditions qui s'annoncent terribles. De la pluie tout le week-end. Côté écurie, il y a du changement. Christian Horner a été renvoyé par Red Bull. Le Français Pierre Gasly évoque un possible retour chez Alpine.
On verra ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, avec Flavio, tout est assez clair. Et voilà, on sait ce qu'on est en train de construire. Tout le monde est très concentré sur 2026. Et on verra ce qui se passe. Il faut se rappeler de la carrière qu'il a pu faire pendant 20 ans et tout ce qu'il a pu importer. Il était là depuis le premier jour de Red Bull. Voilà, moi, j'ai pu travailler avec lui pendant 6 mois. J'étais forcément plus proche d'Helmut du fait que Helmut soit venu me chercher quand j'avais 17 ans. Mais voilà, je souhaite tout le meilleur à Christian et je suis sûr qu'on le reverra dans le paddock.
Le Grand Prix de Belgique, ce sera 2 courses. La Sprint Race demain soir 21h. Le Grand Prix à minuit dans la nuit de dimanche à lundi.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Allez Jean-François, avant de passer au rendez-vous sur le territoire, on va parler des Calédoniens qui sont engagés dans des compétitions internationales.
D'abord de la natation, Maxime Grousset et Ethan Numenil sont à Singapour. Ils vont disputer les Mondiaux. La compétition démarre dans la nuit de dimanche à lundi. On suivra également ce week-end 2 jeunes Calédoniens engagés sur la 4e manche du championnat d'Australie de karting sur le circuit d'Ipswich dans la banlieue de Brisbane. Raphaël Gilles et Luca Padovese-Robo disputeront les qualifs et 5 courses avant d'atteindre, on l'espère pour eux, les demi-finales et la finale dimanche.
Allez, faisons maintenant le tour des événements prévus sur le territoire et on va commencer avec du cyclisme sur piste.
Avec une soirée hommage à Jean-Claude Lecourieux ce soir à partir de 18h30 au vélodrome de Magenta. Blanc-Blanc, comme on l'appelait, est décédé le 7 décembre 2023. Il avait 67 ans. Ancien coureur sur route et sur piste, il avait remporté le Tour de Calédonie en 1984 et était double champion de France de demi-fond. Du golf, demain avec la finale locale de la Soma Bay World Cup qui se déroulera à Deva. Sur près de 400 compétiteurs qui ont disputé les qualifs, il n'en reste plus que 61. Demain, 2 seulement décrocheront leur billet pour la Coupe du Monde amateur de golf prévue en Égypte en octobre. Du football, avec la dernière journée de la phase de poule de Super League, 4 matchs sont prévus au stade de Numadélé, Lossi Saint-Louis, Mondor-Gaïcha dès demain 15h, Nedjeoukonier puis Horizon Patho Yengen Sport dès dimanche à partir de 10h. Et puis le rallye de Nessadiou à Bouraï aura lieu demain. 14 équipages seront au départ dès 8h avec 7 spéciales prévues tout au long de la journée. 3 zones spectateurs seront spécialement aménagées sur la propriété Bouffnèche.
Un mot de sport de pleine nature avec la première édition demain du Raid des Facteurs.
Une course à pied par équipe de 3 sur les traces de l'histoire postale. Les coureurs emprunteront les anciens sentiers utilisés par les facteurs de l'époque. Le départ du Raid de 14 km aura lieu à 8h30 au vieux village de Prony. Dimanche, les trailers et amateurs de courses d'orientation ont rendez-vous à Tontouta sur le site de Natéré. L'association Convergence organise le Néo Raid Aventure. Un Raid Aventure avec au programme une course d'orientation, du trail, du VTT, du run and bike et des épreuves surprises. Par équipe de 2, les participants auront 4h de 8h à midi pour réaliser le plus d'épreuves possibles. Demain, c'est aussi le championnat de Calédonie de Vaha V6 longue distance au départ de Lansvata. 2 courses au programme, 18 km et 24 km. Enfin dimanche, les courses épiques font leur retour à Nouméa sur l'hippodrome Henri Millard. La société sportive de la Nouvelle-Calédonie proposera 8 courses dès 11h. Dernière réunion avant le rendez-vous épique de la saison, la fameuse Coupe Clark qui aura lieu dimanche 10 août.
Un petit mot de taekwondo pour terminer. Demain, la Reine du Sud avec plus de 130 combattants, des plus jeunes aux plus expérimentés qui se retrouveront donc à Païta. Ouverture des portes à partir de 7h. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
La météo, Pierre.
La façade ouest pour cette nuit ainsi que la pointe sud seront exposées à des remontées nuageuses accompagnées de petites averses qui atteindront les Loyautés en seconde partie de nuit. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Sur la côte est, le vent demeurera faible. Sur le nord-ouest et Bélep, un vent de sud-est soufflera entre 10 et 15 nœuds. Côté température, les minimales oscilleront entre 14 et 16 degrés dans l'intérieur des terres et entre 17 et 21 degrés sur le littoral et les îles. Demain matin, le soleil s'imposera généreusement sur le nord-ouest et la côte est. Ailleurs, il devra composer avec des passages nuageux parfois nombreux, pouvant donner localement de faibles ondées. L'alizé de sud-est soufflera autour de 10 nœuds, localement plus faible autour de 5 nœuds, notamment sur la côte est et en début de matinée sur le sud-ouest.